Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Avec moi dans le studio, Solange Niamoulissa, journaliste et militante des droits humains congolaise, qui milite en particulier contre la violence domestique ou violence familiale. Merci beaucoup Solange d'être avec nous.
Merci Nathalie, c'est un plaisir. Hein.
C'est un plaisir de vous avoir, effectivement, d'autant plus qu'on n'a pas besoin d'aller vous chercher trop loin.
Ah ouais.
Vous êtes juste à portée de main, vous travaillez, hein, vous avez travaillé pendant à peu près 2 ans, c'est ça, la Voix de l'Amérique,
ouais,
avec
une
nous.
Une année et demie maintenant.
Ouais, ouais. Avec nous, fait un merveilleux travail.
Merci beaucoup Nathalie.
Vous avez vraiment apporté énormément à cette division French to Africa. Et vous avez d'ailleurs travaillé dans le sens d'engager le public et surtout les jeunes dans nos programmes. On ne peut que vous dire merci.
Merci Nathalie, je ne fais que mon travail.
Alors on fait une petite bio, Solange. Oui. Vous parlez l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le kinyarwanda. Vous êtes mère de 2 grandes filles, 18-19 ans. Vous êtes experte en communication, information publique. Vous avez produit notamment des courts documentaires qui ont été diffusés sur CNN. Vous avez travaillé pour Action Aid dans l'Est de la RDC. Vous êtes membre de la Voix des femmes congolaises. Comment le dit-on ?
Ouais, en swahili, au fait, c'est Sauti ya Mama Mkongomani qui signifie la voix de la femme congolaise.
Ouais. Et vous avez été reporter pour Internews Rwanda, chargé de communication pour le PNUD à Madagascar, notamment durant le processus électoral. Vous avez travaillé pour le HCR, etc., etc., etc. On va s'arrêter là. Hein. C'est encore une longue liste. Et on va parler d'un sujet moins amusant, la violence domestique, la violence familiale, parce que c'est une histoire qui vous a touché de très près, notamment à travers votre maman. Comment l'avez-vous vécu ?
Nathalie, disons que ça a été vraiment un traumatisme jusqu'au sens où toi, en tant qu'une fille, tu rejettes carrément le mariage. Tu t'es dit, il n'y a rien de beau dans un couple, dans le mariage. À quoi sert de se marier ? Parce que j'ai vu comment la vie de ma maman a basculé. Quand mon père a, un jour, subitement, il a changé. Pendant une période, c'était précisément en 99. Tu vois, on avait un papa qui nous aimait beaucoup, un papa qui était là pour nous, un papa, pour te dire, qui allait même faire les courses. Il allait au marché pour faire des courses, il était spécial. Mm-hmm. Et ils allaient en vacances avec sa femme, il était là pour sa femme, quoi. C'est vrai qu'il, avec nous, ses enfants, il était trop dur, quoi, par rapport à l'éducation. Mais j'ai compris à la fin, il voulait qu'on soit les meilleurs, il voulait qu'on puisse réussir dans notre vie. Mais un beau jour, il a tout changé, il a commencé à frapper ma mère.
Vous aviez quel âge ?
À l'époque, j'avais quel âge ? Je me rappelle plus, mais j'étais adolescente.
Adolescente déjà ?
Oui, oui.
Mais ça doit faire un sacré choc, ça, parce que comme vous dites, c'est une longue période sans violence.
Oui. Et puis subitement, ça commence et tu t'es dit, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'arrives pas à comprendre. Tu te rends compte, quelqu'un qui frappe ta maman jusqu'au point, le lendemain, il faut l'amener à l'hôpital. Ah oui ? Il faut l'amener à l'hôpital parce que il faut qu'elle ait accès à un traitement, sinon ça vient en danger. Ça vient en danger, donc.
Et vous, vous avez été témoin de cela,
On a été témoin de cela.
Vous avez vu les coups.
On a vu les coups. On était tout derrière.
Et comment vous réagissiez à ce moment-là, vous? Quelle a été votre réaction?
Oui, en sécurité, mais en même temps, vous voulez, c'est un peu des défenses, je me rappelle.
Bien sûr, défendre
un jour,
votre mère.
Il y a un de mes petits frères qui était tellement à bout, il a failli même se battre avec mon père, parce qu'il supporte pas. Il supporte pas de voir ça. Mais après, quelques années plus tard, nous, on va partir à l'université et ça va continuer, ça va s'empirer, jusqu'au moment où moi, j'ai dit à ma mère, ça ne sert à rien de rester. Ils étaient à 26 ou 27 ans de mariage, de vue des vies de couple.
Oh.
Ouais, c'était après des années. C'est pas quelque chose qui a commencé comme on voit aujourd'hui. Certains, 1 an, 2 ans de vie de couple, ils commencent déjà à avoir de problèmes. Non, non, c'était après, je crois, 27 ans de mariage. Et c'est pourquoi nous, on ne comprenait pas.
plus dans la presse.
3 millions de jeunes filles chaque année dans le monde sont victimes de MGF, soit 6 par minute. Les cas les plus critiques sont enregistrés dans 27 pays africains, le Yémen, l'Irak et l'Indonésie. Depuis des décennies, les pays occidentaux luttent activement contre ce fléau sur leur propre sol, comme les États-Unis et la France, parmi d'autres nations où la pratique des MGF est passible d'emprisonnement. 3 adolescentes sur 10 qui résident en France sont menacées de subir des mutilations sexuelles, notamment lors de vacances dans le pays d'origine. Selon le réseau Excision, parlons-en, à l'origine de la campagne Alerte Excision. La déléguée générale de l'organisation Marion Schaeffer rappelle que dans les années 80, les petites filles étaient menacées, puis il y a eu des campagnes de prévention et des premiers procès retentissants. Mais aujourd'hui, les 12-18 ans sont davantage à risque, indique-t-elle. Solange, après 27 ans.
Oui, je précise, après les 27 ans, c'est quand nous, on n'était plus à la maison, en fait. Là, c'était plus tard, en fait. Ça a commencé bien avant, en fait. Jusqu'à la fin, on a compris que on va pas pouvoir le changer, mais il faudrait quand même que la maman soit en sécurité. C'est comme ça que moi, quand j'ai commencé à travailler, je l'ai sortie de la maison familiale, quoi, pour la mettre à l'abri. Ouais, parce qu'elle vivait avec beaucoup de traumatismes, beaucoup.
Et donc, vos parents ne sont pas divorcés?
Non, ils sont pas divorcés. Ils sont légalement, ils sont toujours mariés, mais ils sont séparés
maintenant.
Ils vivent
séparément.
Séparés, oui.
Parole de femme.
Solange, en 2011, dans l'Est de la RDC, vous êtes allée à la rencontre de femmes victimes de violences conjugales. Voici un extrait de ce film documentaire de 20 minutes, Lettre à ma fille.
Ilenjia ulichagua inapashwa ukwe akili watu wote wanatafuta.
Il y a 2 décennies, j'ai rencontré l'homme de ma vie, mon actuel mari. On s'est aimé. Pendant les 3 années de fiançailles, je n'avais jamais songé un jour que l'image que j'avais de mon mari, le moment que j'ai vécu avec mon fiancé, allait un jour changer. Non. Ce soir-là, je me suis endormie, mais pas vraiment profondément, lorsque tout d'un coup, mon monsieur est venu sur moi. Il a arraché l'épingle. J'avais porté l'épingle, j'avais la robe de nuit, j'avais porté l'épingle. Alors, il a arraché mon pagne. Il m'a écarté les jambes. Et il est venu sur moi si brutalement que j'étais déchiquetée de mon organe. Et quand il a atteint son but, il s'est rendormi. Et voilà.
Et voilà, hein, ça c'est un extrait d'un très très beau documentaire vraiment sur des témoignages de femmes qui ont accepté de témoigner. Elles ont vraiment mis des mots particuliers sur ce qu'elles ont vécu. Hein. Elles l'ont très très bien exprimé, des femmes très très courageuses, de manière anonyme pour les protéger. Solange, vous-même, votre cas, vous êtes une femme célibataire. Vous m'avez dit auparavant que finalement ça s'est lié à cette histoire. Cette crainte finalement de retrouver un même schéma, c'est ça, que votre maman?
Oui, au fait... À la fin, je me suis dit, ça ne sert à rien de se marier parce qu'après, on va subir la même chose. Parce que quand on voit, quand je réalise que ma mère, 20 ans après, a une vie de couple heureuse, elle a été victime de violences conjugales, avec aussi les témoignages de toutes ces femmes et puis même les gens qui m'entouraient, subissaient aussi ces mêmes... pratique, je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment se marier? Je crois que peut-être c'est mieux de se concentrer plutôt à sa carrière et tout, et ne pas se marier pour éviter les violences conjugales. Donc moi j'ai la conséquence de tout ça, c'est ça a été un rejet, j'ai rejeté le mariage. Mais après tu sais avec le temps j'ai pu changer, j'ai compris que c'est pas toujours la même chose pour tout le monde
bien
parce
sûr.
Que j'ai vu.
Mais dans tous les cas forcément ça a joué sur votre psychique et votre avenir.
Bien
forcément.
Sûr, bien sûr, ça a beaucoup joué parce que
si vous n'aviez pas connu cette situation, vous seriez peut-être déjà mariée depuis plusieurs années.
Ça c'est sûr,
on
ça
peut
c'est
dire
sûr.
Comme
ouais,
ça.
Je serais déjà mariée mais
on revient sur votre documentaire Lettre à ma fille, et je précise que c'est donc un reportage de Solange Niamouliza qui a été filmé par Salvatore Babone, dirigé par Nathalie Blaquier, avec l'association Umulinzi à Kigali, Apfed à Goma et trois tamis Bukavu. Alors voici un autre extrait.
J'ai aussi des problèmes de patrimoine. Il dit, toi tu as étudié, tu n'as pas de boulot. C'est mon argent, c'est ma télévision, c'est mes chaises. Moi, je n'ai rien parce que je n'ai pas d'argent.
Il ne m'a jamais tendu quelque chose à main comme ça pour me remettre. Il dépose là-bas. Et tu sais, il ne connaît même pas mon nom.
Non.
Il ne m'a jamais appelé par mon nom.
Non.
Quand il a un message à transmettre, il vient, il parle dans le vide. Quitte à toi à saisir mes noms. Ça me concerne. Ça concerne les enfants. Je ne sais pas si on peut qualifier de ça une violence. Et... De quelle nature, de quel genre, quel type, dans quelle catégorie on peut mettre cette violence, cette indifférence, ce désintéressement, alors que il n'y a eu personne pour nous forcer de nous rencontrer, de nous aimer. Non, c'était parti. C'était un choix libre. Pourquoi tout d'un coup, ces changements s'opèrent? Je ne sais pas s'il y a encore d'autres femmes qui vivent cette vie-là.
Donc c'est Lettre à ma fille, hein, financé par le département pour le développement international du gouvernement du Royaume-Uni chargé de l'administration de l'aide internationale. En fait, c'est un peu l'équivalent de l'USAID, on va dire, pour
ouais,
les
ouais.
États-Unis,
là,
c'est ça hein.
Ouais, c'est ça. Là, c'est DFID et au fait, c'était un projet de Internews. À l'époque, un projet qui était réalisé dans le cadre de rapprocher les deux peuples, donc le Congolais et les Rwandais. Et donc, il fallait faire des sujets communs. C'était mon premier long documentaire. Quel est le sujet que tu aimerais faire? Et moi, j'ai choisi cette question parce que je savais, oui, au Congo, il y a des femmes qui vivent ces problèmes de violence domestique. Et même au Rwanda aussi. En fait, c'est la même réalité.
Oui, c'est un petit peu la réalité universelle, on va dire.
Hein, oui.
C'est dans beaucoup de pays en Occident, un petit peu partout, la violence, elle est telle qu'elle est.
Et malheureusement, dans beaucoup de pays, rien n'est fait pour protéger ces femmes. Elles sont toujours abandonnées à elles-mêmes. Et d'ailleurs, dans le reportage, quelque part, on se demande alors qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces femmes? Est-ce qu'elles doivent quitter leur mari ou pas?
C'est la question,
quitter le foyer. Mais si elles quittent le foyer, où est-ce qu'elles vont partir? Alors que maintenant tu
on
as
va
des
effectivement
enfants.
Revenir là. Le ce rapport entre ce monsieur et cette dame, parce que bon là on a pris l'extrait en particulier d'une des rares femmes qui parlait le français, les autres c'est la langue locale,
oui.
Mais qui disent des choses absolument formidables également sur cette question. Ce rapport entre cet homme et cette femme, c'est dû à la culture, c'est un petit peu l'homme qui arrive à la maison, qui au lieu de lui donner quelque chose, le pose à côté ou ne s'adresse pas à elle, s'adresse comme si elle n'existait pas. Est-ce que c'est pas un peu une culture, on va dire ancienne, de patriarcat, ce type de comportement,
non,
ou est-ce que c'est vraiment un homme qui était comme ça, ou est-ce qu'on peut le retrouver chez d'autres?
Je crois que on le retrouve chez d'autres,
ouais.
Mais est-ce que c'est vraiment culturel? Je ne pense pas, parce que quand même si on regarde, je parle précisément de ma culture. C'est vrai que l'homme il est au-dessus, l'homme c'est lui le chef de la famille.
Ah bah, d'ailleurs, excusez-moi, oui. Je pense à cet homme dans le reportage, on va en parler après.
Il est le chef de la famille, mais quelque part, il respecte sa femme, donc s'il faut...
Il en prend soin.
Il en prend soin. Mais l'homme qui n'arrive pas, même il connaît même pas le nom de sa femme, ça c'est vraiment, il considérait pas sa femme, c'est tout.
C'est du mépris.
C'est du mépris.
Ouais. Et cet homme sur une barque que vous avez interviewé, c'est extraordinaire. Alors lui, il dit, quel que soit ce qui arrive à sa propre fille, mais ça on le retrouve, c'est flagrant.
Beaucoup de parents.
C'est-à-dire que le mari peut être alcoolique, il peut être extrêmement violent, il peut tout lui
il
faire.
Il faut le supporter.
Mais il faut le supporter.
Tel qu'il est.
Et il l'explique très clairement, c'est le chef de la famille, il a tous les droits, elle doit se courber, se mettre à genoux devant lui. Et surtout, ça par contre, c'est extrêmement culturel. Ma fille, il est hors de question qu'elle revienne à la maison.
Ah oui, parce que souvent, tout justement, quand, chez nous, quand tu te maries, on dit, on a cassé ton lit. Donc c'est un chemin à l'air, mais pas, il y a pas de retour. Et donc, du coup, quand tu pars, et au moment où ça ne va pas dans ton foyer, tu reviens vers ta maman.
C'est même dur, ça, on a cassé ton lit, je trouve.
Ouais, tu reviens vers ta maman, tu commences à lui expliquer, et ta maman te dit, mais tu sais, moi-même, j'ai vécu tout ça, ma fille, il faut supporter. Et là, tu es même surprise, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens aussi qui ne voient pas ces violences-là dans leur famille.
C'est ça qui est très dur quand on est une jeune femme, une jeune fille, c'est de voir que notre propre maman, elle ne nous soutient pas parce qu'elle est dans le système, elle a été programmée dans le système et elle va dans le même sens.
Chose, ouais.
Et vous attendez quelque chose d'elle. Mais ça, on va peut-être le voir après, ça tend à changer quand même.
Ah oui. Mmh.
Faut-il tout accepter? Tout simplement parce qu'on a prêté serment pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que on n'a pas droit de quitter son mari si ça ne marche pas?
Mais s'en aller, ce n'est pas ça la réponse. Ce n'est pas ça la solution. Surtout qu'on a des enfants. Quand on n'a pas d'enfants, là, je m'en fous. Le monde dira ce qu'il voudra dire. Mais maintenant, ses enfants. Et quand toi, tu t'en vas, le papa devient pire que quand toi, tu étais là.
Alors ça, c'était un autre extrait de votre documentaire, hein, des questions encore confrontées à notre environnement, à notre culture. Mm-hmm. C'est ça, on ne peut pas quitter, quoi.
On ne peut pas quitter parce que quand tu quittes, tu n'as nulle part où aller. Tu vois que déjà, tu ne peux pas retourner chez tes parents parce qu'ils vont te dire non, il faut rentrer chez ton mari. Je me rappelle, à l'époque, j'avais une cousine qui était mariée et à peine après un an, elle vivait des violences conjugales dans sa famille. Et le jour où moi, elle m'en a parlé, je dis non, tu peux pas rester, mais tu vas mourir dans ces foyers.
Et d'ailleurs, toute femme avertie donne ce conseil immédiatement. Il n'y a pas à hésiter.
Ouais.
Quelle que soit la situation, il faut trouver une solution pour
partir. Aujourd'hui, Nathalie, le problème, c'est quoi? Partir, mais où tu vas aller où? Parce que t'as personne, il n'y a pas des structures comme dans d'autres pays qui prennent en charge ces femmes battues, ces femmes.
C'est difficile pour tout le monde.
Et comme elle dit, tu as deux enfants. Comment tu n'as rien. Comment tu vas pouvoir subvenir aux
besoins?
Mais
ça va au-delà de tout ça aussi, je crois, parce que même en Occident, on a des chiffres inouïs en France, par exemple, des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint dans la semaine. Et en fait, là, il y a les structures pour les accueillir, ces femmes-là. Mais elles restent. C'est les enfants aussi, très souvent. C'est les enfants comme des femmes. Certaines femmes le disent dans le reportage. Et c'est aussi culturel, parce que c'est la peur de l'autre aussi. Encore, c'est la peur de qu'est-ce qu'on va dire dans ma famille.
Surtout ça, qu'est-ce qu'on va dire dans la famille, dans la communauté.
Échoué, ou des choses comme ça, peut-être, non?
Oui, dans la communauté, dans ta famille, tu seras la rusée, tu as échoué, tu ne sais pas prendre soin d'un homme, pourquoi les autres ont supporté, toi tu ne peux pas.
On va te blamer.
Ouais. Le problème, c'est toi qui vas être...
On blame la victime, et c'est ce qui se passe très souvent. Ouais. Et ça commence très souvent comme ça, au sein même de la famille.
Au sein de la famille.
Même parfois, quand elle annonce... qu'elle est victime de violence, ou on a du mal à la croire.
Et quand tu arrives à prouver, mais ils vont te dire non, mais écoute, ils vont essayer de trouver des théories pour te dire comment tu dois supporter, comment tu dois faire, ne rien dire.
Il y a une sorte de déni aussi.
Oui, des dénis, ouais. Alors que c'est une réalité qui est là. C'est dommage pour ces femmes, Nathalie, c'est vraiment dommage.
Absolument. Et la loi, que fait-elle? Comme vous le dites dans votre documentaire, Solange, hein, et d'ailleurs, lors de notre discussion avant l'émission, vous avez décidé d'appeler un expert, maître Toto Manimani, avocat du barreau de Bukavu, qui apporte ici un élément de réponse sur cette question cruciale.
Sur le plan légal, il n'existe pas particulièrement, mieux spécialement, une loi qui a été prise par l'État congolais pour protéger les femmes mariées victimes de violences conjugales. C'est une faille terrible parce que les violences, même verbales ou physiques, que les hommes font subir aux femmes, ne sont pas vraiment sanctionnées. Et les femmes et les enfants sont aussi victimes de ça, parce que les enfants, lorsqu'ils vivent de telles conséquences, leur avenir devient hypothéqué.
Comment ça se passe en République démocratique du Congo quand une femme est battue par son mari?
la justice recourt aux dispositions des droits communs sur les coups et blessures. Anciennement, je veux dire, dans des positions qui ont été prises précédemment par des juges, ils considèrent que le mari a un certain devoir d'éducation vis-à-vis de la femme et que donc on ne peut sanctionner le mari que pour des violences assez graves. Moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de dossiers où la femme va se plaindre au niveau du parquet. Ça termine souvent par un classement sans suite. Il n'y a pas une sanction, il n'y a pas une loi. Sur ce point-là, les femmes sont vraiment vulnérables. Parce que même dans des cas, et ça c'est fréquent, où les maris quittent les femmes ou abandonnent les femmes et enfants. Et très souvent, les femmes, lorsqu'elles viennent se plaindre pour obtenir une pension alimentaire et déjà obtenir l'ordonnance, c'est vraiment un parcours de combattant. Quand on l'a obtenu, il ne tient pas des sommes assez énormes pour permettre à la femme de prendre une maison, de se nourrir et de faire vivre ses enfants. Les femmes ne sont pas protégées sur ce point. C'est vraiment un besoin qui se ressent au vu du nombre de femmes victimes de ces violences-là.
Et est-ce que les femmes aujourd'hui, elles ont le courage de demander les divorces?
De plus en plus, oui. Hein. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui me consultent en termes de divorce. Encore une fois, les femmes se retrouvent lésées. Pendant la procédure de divorce, les maris ont tout le temps pour faire passer des biens au nom des enfants ou bien de leurs frères ou au nom des autres personnes.
Maître Toto Manimani du barreau de Bukavu dans le sud Kivu. Alors on a bien compris effectivement que c'est pas encore ça, hein. La lutte est longue.
La lutte est longue.
Mais Solange, parce qu'on doit terminer l'émission, hein. Solange, on voudrait terminer par une pointe positive, l'évolution, les progrès. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Écoute, moi c'est que je peux dire déjà, il y a un besoin urgent au niveau de nos gouvernements d'avoir une loi qui protège ces femmes. Mmh. Et non seulement la loi, mais aussi mettre en place des structures pour accueillir ces femmes. Parce que quand tu subis une violence domestique, tu as besoin tout de suite de prendre de l'air. Tu as besoin de...
Peut-être des numéros spéciaux aussi.
Ouais, des numéros spéciaux,
bien,
ouais,
des
par
numéros
exemple,
d'urgence, où
d'urgence où on peut appeler. Parce que quand ça se passe, parce là, que... tu n'as personne, en fait. Mmh. Et comme tu dis, tu peux mourir.
Bon, certains pays le font en Afrique. Hein. On sait que ça fonctionne dans certains endroits.
Par exemple, au Rwanda, oui, au Rwanda, ils ont évolué par rapport à ça.
Mais le fait d'en parler de plus en plus, le fait, on a entendu Maître Toto Manimani dire qu'il y avait de plus en plus de femmes qui demandaient le divorce. Bon, on imagine peut-être par rapport à ces problèmes de violence. Est-ce que c'est pas positif, ça aussi, dans le sens où finalement on en parle et la justice petit à petit se met en place?
Oui, les femmes, elles demandent des divorces, mais jusque là, comme il a bien dit, en fait, la loi qui s'occupe de divorce et n'est pas toujours à la faveur de femmes. Mmh. Parce que les hommes cachent leurs biens.
Il le dit bien. Dans une partie, il dit effectivement que les juges ne se donnent pas forcément la peine de faire des enquêtes complètes sur le patrimoine
de la famille. Parce que souvent, ces femmes, elles dépendent de leur mari. Mmh. Et donc, une fois tu divorces et le mari n'a pas tout déclaré, donc tu te retrouves dans la rue. Et la pension alimentaire, il a dit, ça ne dépasse pas 400 $. Et même pour l'avoir, c'est aussi un problème, parce qu'on ne coupe pas la source, donc du coup, ça devient un problème pour faire exécuter cette ordonnance une fois tu l'as.
Solange Yamouliza, un grand merci pour ce que vous faites.
Un plaisir, Nathalie.
Pour votre lutte, et c'était un plaisir de vous avoir.
Merci beaucoup de nous avoir donné ces plateaux pour faire le plaidoyer.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci, Nathalie.
Arrête.